Alors, en vue des fêtes du bicentenaire de notre Église qui vont battre leur plein la semaine prochaine, nous avons envoyé un dossier de presse à différents journalistes, en fait, et des journalistes nous ont contactés, intéressés, mais aussi un peu intrigués par la liberté qui existe parmi les fidèles de l'oratoire, liberté de penser, liberté de foi, liberté de se déterminer dans leur propre vie. Et cette question revient souvent dans la bouche de ces journalistes, mais si chacun pense ce qu'il veut, qu'est-ce qui rassemble ces personnes dans une même église? Qu'est-ce qui vous unit en une communauté? Cette interrogation rejoint celle de personnes qui découvrent la foi chrétienne et qui nous demandent souvent, au bout de quelques entretiens, mais qu'est-ce que je pourrais lire qui me donne une idée de ce que croient les protestants, de ce que croient les personnes, de ce que croit l'église de l'oratoire? Ce à quoi je réponds, oui, vous pouvez lire la Bible, vous pouvez vous faire votre propre opinion, vous pouvez prier comme bon vous chante, vous pouvez venir à l'oratoire quand vous voulez, nous serons toujours contents de vous y accueillir, mais cela laisse un peu de flou, bien sûr. Alors au fond, qu'est-ce qui nous unit? Et ce quelque chose qui nous rassemble, quelle liberté ça laisse à l'individu? Comment est-ce que ça nous aide ou ça nous contraint? Pour réfléchir à ça, je vous propose de nourrir notre réflexion d'abord de la lecture de deux chapitres très célèbres de la première lettre de Paul aux Corinthiens, Église de Corinthe donc, où se posaient de façon assez brûlante ces questions de la liberté et de l'unité de l'Église. Ce sont les chapitres 12 et 13 de la lettre de Paul, première lettre de Paul aux Corinthiens. Pour ce qui concerne les dons spirituels, dit Paul, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés vers des idoles muettes? C'est pourquoi je vous le déclare maintenant. Nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne peut dire Jésus soit anathème, c'est-à-dire que Jésus soit écarté, mis au placard. Et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actions, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre est donnée la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses sortes de langues. À un autre, l'interprétation des langues. Mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, nous avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si une oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était un œil, comment pourrions-nous entendre? Et si tout était « oui », comment pourrions-nous sentir? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Et si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant donc, il y a une multitude de membres et il y a un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire au pied « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et ainsi, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église d'abord les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite il y a le don des miracles, puis le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Mais voilà, aspirez simplement aux dons les meilleurs. Je vais vous montrer la voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, même si je livrais mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert absolument à rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, de la fidélité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Que ce soit les prophéties, elles cesseront, la connaissance sera abolie, car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais un bébé, je parlais comme un bébé, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, eh bien j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière un peu confuse. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Poursuivez l'amour. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et comme une louange, je vous propose de chanter le cantique 297, en fait, et pas 279, 297, « Ô Dieu des grâces éternelles », les trois strophes du cantique 297 dans le petit recueil « Louange et prière ». Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nourrir notre bonne volonté. Fais taire en nous toute voix contraire à la tienne, de peur que nous ne perdions notre vie malgré ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique. Et donc, Seigneur, ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits, nos cœurs, nos vies tout entières à ta fidélité. Notre Église est un club de personnes qui ont des convictions assez diverses, des itinéraires particuliers. C'est un club de personnes qui habitent des quartiers, des villes, voire des pays, qui se fréquentent assez rarement, assez exceptionnellement. Qu'est-ce qui peut unir des personnes aussi différentes? Eh bien, c'est une recherche de Dieu qui nous unit. C'est un intérêt pour la Bible et en particulier pour la personne de Jésus-Christ, cette personne, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a vécu. Et ce qui nous unit, c'est le fait de ne pas chercher seulement Dieu tout seul, dans notre coin, mais aussi, peu ou prou, beaucoup ou pas tellement, mais de le chercher avec d'autres, dans la liberté et dans le respect. Ce qui nous unit, c'est donc plutôt une démarche. Et cette démarche nous laisse libres d'avoir nos convictions et notre style de vie et notre rythme. Pour reprendre l'image qu'utilise l'apôtre Paul dans le chapitre 12 que nous venons d'entendre, c'est cette démarche qui crée en nous des articulations entre les multiples membres que nous sommes, c'est-à-dire des liens qui nous tiennent ensemble mais qui laissent en même temps une liberté de mouvement à chaque membre pour pouvoir être lui-même finalement. Et c'est cette démarche qui crée aussi des articulations en chacun de nous, des articulations entre les différentes dimensions de notre existence concrète, entre le moi qui prie et le moi qui mange, qui travaille, entre l'ami que je suis avec certaines personnes, avec le conjoint, avec l'homme qui est heureux et l'homme qui désespère peut-être. Donc chacun de nous est également donc tout un peuple de personnes qu'il est bon d'articuler. Eh bien, cette démarche nous articule entre nous et articule chacun d'entre nous dans ses multiples facettes. Alors c'est exact qu'un bel exemple, un bel ensemble de croyances et de pratiques communes aussi peut très bien unir un groupe de personnes. Mais les liens que forment un ensemble de convictions est bien moins souple, bien moins vivant que les liens formés par une démarche commune en fait. Un ensemble de croyances, c'est un peu comme un parc pour les bébés. Ça l'aide à se lever sur ses petites jambes, ça laisse une certaine liberté tout en le protégeant des bêtises qu'il pourrait faire, peut-être il risque d'aller dégringoler dans l'escalier. Alors je ne me moque pas du tout, je ne critique pas ces ensembles de convictions qui peuvent tenir des gens ensemble, un parti politique ensemble, un club philosophique ou une église. Car il faut, bien sûr, certain nombre de convictions pour unir des gens, mais il en faut ni trop, ni trop peu. Paul, dans cette lettre aux Corinthiens, dit qu'il suffit d'avoir en commun une seule conviction commune pour faire une église, Jésus est le Seigneur. Et la seule conviction qui fait qu'il serait difficile de se prétendre chrétien, de faire partie du club, c'est de dire « rien à faire de Jésus-Christ ». Mais cela laisse quand même une sacrée marge. Paul se réjouit ainsi des diversités de théologies, de services qui existent dans la communauté chrétienne de Corinthe. Mais il appelle à une communion et il dit comment cette communion peut exister. Cette diversité manifeste la vitalité de l'Esprit de Dieu en chacun de nous et cela ne nuit pas forcément à l'unité. Au contraire, c'est une chance et c'est une bénédiction. Nous avons donc quelques croyances qui nous unissent dans notre Église, mais elles forment un ensemble volontairement très restreint. Dieu, la Bible, le Christ. Mais encore, chacun de ces éléments, avec une diversité très grande, de les considérer en réalité, même pour Dieu. Il y a des conceptions et des relations avec lui qui sont très diverses entre nous. Et c'est non seulement pas gênant que ça soit ainsi, mais c'est même une chance. La diversité de théologie n'est pas un scandale, elle est la conséquence naturelle de notre diversité, de sensibilité. Et puis, c'est la conséquence naturelle de l'authenticité de la relation personnelle que nous avons chacun avec Dieu. Cette diversité de confession de foi, elle est même précieuse en fait, car elle nous rappelle qu'aucune confession de foi n'est parfaite, parfaitement fidèle, et même si elle l'était, parfaite, parfaitement fidèle, exacte, elle ne dirait pas tout sur Dieu sous tous ses aspects, bien sûr. Et donc la diversité de nos théologies, de nos confessions de foi, nous encourage ainsi à poursuivre le chemin et à le poursuivre dans l'humilité et dans le dialogue avec les autres. Ce qui nous unit, en fait, c'est un intérêt pour Dieu, un intérêt qui nous est commun, et c'est une recherche en partie commune, car on pourrait très bien être chrétien tout seul dans son coin. Mais si nous sommes ici, eh bien c'est que nous voulons avoir, en plus d'une recherche intime, particulière, avoir aussi une partie commune à cette recherche, une interpellation commune, et parfois une interpellation mutuelle, en fait. Mais nos convictions personnelles et notre relation à Dieu sont propres à chacun et elles évoluent, elles sont même appelées à évoluer, à cheminer, à progresser. Dans un club de personnes unies par un ensemble de convictions fermes, de pratiques communes, c'est bien plus difficile d'évoluer. Le fait même que les croyances soient présentées comme très importantes, soient un peu sacralisées comme la vérité du bon Dieu, eh bien, ça invite déjà chacun à la prudence. Peut-être que si je réfléchis par moi-même, je vais être dans l'hérésie, le blasphème, que sais-je. Et quand une personne se retrouve près des frontières du pensable dans le groupe, eh bien, elle se sent mal à l'aise et elle met le groupe mal à l'aise. Alors que dire si elle sort un doigt de pied en dehors de ses limites ? Mais ici, à l'oratoire, nous sommes plutôt unis par une démarche commune qui laisse chacun libre de cheminer comme il l'entend. Enfin libre, pas tout à fait libre quand même. Dans un groupe uni par des croyances, le péché, c'est de remettre en cause les croyances communes. Dans notre Église qui unit des personnes par une démarche personnelle, il y a deux péchés, si je puis dire. Le péché, ce serait plutôt de ne pas respecter l'autre dans sa propre démarche. Alors oui, chacun peut penser comme il veut, chacun peut exprimer son opinion, des opinions peut-être farfelues, mais on peut en débattre entre nous, mais on n'a pas le droit d'injurier une personne parce qu'elle ne pense pas comme nous ou ne pratique pas comme nous. Il n'est pas possible, par exemple, de faire une remarque à quelqu'un qui ne participerait pas à la Sainte-Cène en disant « mais pourquoi tu ne participes pas à la Sainte-Cène ? » Ça lui appartient. Et on ne dit pas à quelqu'un qui reviendrait au culte après 2 ans d'absence parce qu'il a été aux champignons longuement, lui dire « mais ah tiens, en revenant, pourquoi tu n'es pas venu ?» Non. Et le deuxième péché, finalement, serait de ne pas nourrir sa propre démarche personnelle, de ne pas se donner les moyens de réfléchir, de chercher, de cheminer encore. Car avec cette liberté qui nous est chère, celui qui ne pense pas par lui-même ne pense pas grand-chose en fait. Et celui qui ne se fixe pas pour lui-même des règles d'hygiène de vie, des règles de fidélité, il fera n'importe quoi. Or, Paul nous dit, dans cette même lettre aux Corinthiens, mais un peu avant, « tout est permis, oui, mais tout ne construit pas », nous dit Paul. Et le néant, ça ne construit pas tellement non plus, en fait. Donc, qu'est-ce qui unit une communauté où règne une telle liberté de pensée et d'action? Cette question se posait dans l'église de Corinthe de façon si aiguë que c'est l'objet même de cette lettre de l'apôtre Paul. Il compare l'église à un corps dont Jésus-Christ est la tête. Et ces deux chapitres, 12 et 13, nous montrent ce qu'il entend par là. Qu'est-ce qui unit ainsi la multitude des membres de l'église en une unité vivante, finalement, comme un corps? Paul insiste sur la multiplicité des membres, sur leur nature, leurs fonctions aussi différentes que le sont un doigt de pied d'un œil. Il y a donc une infinité d'engagements, de vocations, de façons d'être, et c'est bien. Notre diversité de fonctionnement n'est pas un scandale, c'est une bénédiction, nous montre Paul. Cela n'empêche pas de vivre unis dans le même corps, c'est même ainsi que le corps est vraiment vivant, nous dit-il. C'est même ainsi que le corps existe. Ce qui nous unit, nous dit Paul, c'est l'esprit. Alors oui, pas facile de dire, tout d'un coup, c'est l'esprit qui va venir. Mais il donne la recette dans la suite. C'est l'amour qui permet de recevoir finalement cet esprit. Et l'amour, l'esprit, ce sont deux réalités très dynamiques ici. L'esprit dont il est question ici, ce n'est pas seulement comme le sang qui alimente nos membres avec de l'oxygène. C'est même plus que la vie qui anime notre corps. L'esprit dans la Bible, c'est de l'ordre de la nouveauté de vie. C'est donc un cran plus haut finalement, en amont même de la vie. L'esprit transforme un tas de poussière en un être vivant, nous dit la Bible. Et quand l'esprit est donné à cet être, comme c'est le cas pour tout être humain, l'esprit rend cette créature même capable de penser et d'aimer. Il le rend capable de liberté, capable de créativité personnelle avec son génie propre. L'unité, nous dit Paul, ne vient donc pas de l'extérieur comme une contrainte, mais vient de l'intérieur comme une incroyable source d'évolution qu'est Dieu. L'unité ne vient pas d'une frontière qui nous serait donnée, elle vient d'une nourriture qui abreuve nos corps et crée même peut-être des membres nouveaux à l'intérieur de notre être. L'unité vient de l'esprit, vient de cet intérieur dans la mesure finalement où nous faisons confiance à ce Dieu, à cet esprit qui nous crée. L'esprit est ce qui nous unit en un corps, mais c'est un corps qui est sans cesse en genèse finalement, dont chaque membre évolue et est appelé à être source de nouveauté à sa mesure. Cela nous encourage à assumer d'être nous-mêmes particuliers, différents des autres, d'avoir une pensée singulière. Le fait d'être quelqu'un d'original, non seulement dans ses convictions, mais même dans sa façon d'être, dans sa vocation, dans son évolution, tout cela n'est pas contraire à l'unité, mais c'est une bénédiction pour chacun des membres et donc pour l'ensemble, en fait. À condition quand même, et ce n'est pas un détail, que ces pétillements de vie ne viennent pas du chaos, mais viennent de Dieu. Plus précisément, qu'ils viennent de l'interaction entre la vie de Dieu et la nôtre. L'esprit, c'est cela, finalement. Mais pour que ça soit vrai, ça semble compliqué de dire, il faut que ce soit l'esprit qui fasse l'unité. Le problème, c'est qu'on ne sait pas d'où vient l'esprit et où il va. Mais pour que ce soit vrai, c'est très simple, en fait. Car Dieu ne demande pas mieux que de nous donner son esprit. C'est ce que nous dit Jésus-Christ, c'est ce que nous dit chaque page de la Bible. Et donc, quiconque cherche Dieu un peu sincèrement, s'ouvre à Dieu et reçoit l'esprit. Et donc, nous sommes unis par une démarche. Mais cette démarche, elle ouvre à l'Esprit de Dieu. Et il y a alors une évolution, des liens qui se tissent entre Dieu et nous et entre nous et les autres. non seulement dans notre Église, mais avec nos voisins, avec nos collègues, avec les personnes de notre famille peut-être. Et finalement, pour recevoir l'Esprit, cette démarche que nous propose l'apôtre Paul, ce cheminement, c'est l'amour. Voilà l'autre réalité principale que Paul met en avant dans cette Église en mal d'unité, c'est l'amour. Une certaine forme d'amour qui unit les personnes dans une authentique bienveillance mutuelle. Et cet amour, nous dit Paul, c'est un cheminement, c'est un chemin de perfection. C'est une vie qui s'élance, qui court en avant et qu'il nous invite à poursuivre. Poursuivez l'amour, voilà comment se termine ce chant, cet hymne que nous propose l'apôtre Paul. Cet amour, c'est donc une recherche de l'autre. Et cet amour, c'est la vie même de Dieu. Cet amour qu'est Dieu nous recherche, lui, en tout cas, inlassablement. Et cette recherche de Dieu qui nous attend, qui nous espère, qui nous appelle, cette recherche éveille en nous des résonances profondes qui nous invitent à nous-mêmes rechercher Dieu. Et il éveille en nous des connexions mystérieuses avec ceux qui nous entourent, avec quelques personnes qui nous sont confiées en particulier et à qui nous sommes confiés, parfois pour un seul instant, en se croisant pour un geste, quelque chose qui est comme un signe de l'Esprit. Dans cet hymne à l'amour, Paul relativise les grands fondamentaux de l'Église chrétienne face à cette vie même de Dieu. Et à mon avis, c'est essentiel. Oui, la réflexion, et donc la théologie, la philosophie, oui, la solidarité, oui, la foi sont essentielles dans notre religion chrétienne. Mais ce ne sont pas des réalités immuables, au contraire. Elles doivent absolument être en cheminement, finalement. Elles doivent être animées par cette recherche, par cette dynamique fondamentale qu'est l'amour au sens où Dieu nous le donne à vivre. Et c'est bien normal, finalement, que notre réflexion, que notre service, que notre foi soit comme nous-mêmes nous sommes appelés à l'être, c'est-à-dire en évolution par l'Esprit de Dieu, comme notre société est appelée à être en évolution, en bonne évolution, comme notre Église est appelée à évoluer aussi. Eh bien, notre foi doit être cette recherche aimante et non une raideur arc-boutée sur des certitudes. Nos actes de solidarité aussi doivent être une recherche aimante de l'autre tel qu'il est, une recherche sans cesse en évolution qui s'adapte. Et notre réflexion, voilà, ça c'est, je crois, spécifique de cette démarche libre et chrétienne. Notre réflexion doit être aussi une recherche aimante de Dieu d'abord, sans tabou, sans frontières. Foin donc des théologies figées, des dogmes éternels qui nous parquent comme des veaux dans une étable. Dieu est un amour puissant qui nous cherche. Nous pouvons donc nous lancer sans crainte dans l'élaboration d'un point de vue personnel. Toujours humblement, bien sûr, mais délibérément. De forger nos convictions d'aujourd'hui, tout en gardant cette part de doute et d'humilité qui s'apprête à évoluer encore et qui toujours cherche. Cette sincérité, même si nous sommes bien sûr en partie dans l'erreur, cette sincérité laisse les meilleures chances à Dieu pour nous aider à cheminer au mieux, à nous convertir, à évoluer, à progresser. Ce qui nous unit dans l'Église, c'est que nous cherchons tous Dieu d'abord, mais aussi que nous le cherchons en partie avec d'autres personnes. Et je crois qu'il y a là, oui, un geste d'humanité et un geste d'humilité. Il y a une reconnaissance dans le fait de vouloir délibérément chercher Dieu aussi avec les autres. Il y a une sorte de reconnaissance que nous ne sommes pas individuellement la totalité du Christ, mais que nous sommes faits pour nous compléter et nous soutenir les uns les autres. Et c'est utile pour nous tous, de ne pas seulement le penser abstraitement dans notre chambre, mais d'inscrire cela dans une démarche physique concrète. Eh bien, c'est ce que nous avons fait ce matin en nous retrouvant ici, malgré les difficultés de transport, malgré la pluie, malgré le fait qu'on soit dimanche matin et qu'on serait si bien dans notre couette. Oui, c'est cet effort, ce geste qui inscrit dans notre vie, dans notre chair, cette humilité, ce respect et cette humanité. Sous le souffle de l'Esprit, notre élan de recherche et d'évolution est une recherche de Dieu, mais c'est aussi ainsi une recherche avec les autres et une recherche des autres. Et cet élan, c'est enfin une recherche de soi-même, oui. Car ce corps que l'Esprit unifie, que l'amour rend possible, c'est aussi nous-mêmes individuellement. C'est nous-mêmes qu'il nous apprend à aimer pour mieux aimer les autres et pour enfin aimer Dieu. Il nous aide à articuler ensemble l'animal que nous sommes et l'ange que nous sommes appelés à être. Il nous aide à articuler les différentes facettes de notre personnalité et nos différentes fonctions dans ce monde. C'est important aussi pour construire l'humanité, l'unité, de l'Église aussi, car c'est quand nous serons en forme nous-mêmes que nous serons bien dans le corps. C'est quand l'œil voit bien, c'est quand le pied marche bien, que le genou est souple, que nous pouvons marcher d'un bon pas, sans fatigue. Que Dieu nous soit ainsi en aide à chacun d'entre nous. Amen.